Bonsoir, on va donc commencer notre soirée sur le thème « Surpoids et société ». Donc l'association ASPES qui organise cette soirée organise 4 fois par an des débats sur le thème de la santé, enfin, différents thèmes relatifs à la santé plus exactement, avec comme intention de... On invite des experts du sujet qui présentent une problématique et ensuite ça permet d'ouvrir un débat avec l'assistance. Hein, C'est vraiment un argument à débat qu'on propose. Donc ce soir, le thème, c'est surpoids et société. Nous avons 2 intervenants. Monsieur Julien Giraud, qui est directeur de l'Observatoire régional de la santé à Poitiers, qui va nous présenter l'état des lieux de la question d'un point de vue épidémiologique. Et puis le docteur Schmitt, qui est endocrinologue, enfin praticien hospitalier endocrinologue, en Bretagne, à Lorient, et responsable d'un laboratoire de recherche sur la nutrition, et qui va nous présenter une approche un petit peu particulière de la question du surpoids, qui a, on dirait, une approche intégrative, c'est un petit peu comme ouais. Ça, on peut dire, qui intègre donc la dimension qualitative de l'alimentation. Voilà. Donc 2 interventions à la suite d'à peu près 3 quarts d'heure chacune, et puis après à peu près 3 quarts d'heure de débat, étant entendu qu'on s'engage à libérer la salle à 22h30. Et pour information, parce que la question m'a été posée, les débats sont enregistrés, enfin les interventions et les débats sont enregistrés et seront mis sur le site de l'Espace Mendès France où ils sont accessibles d'ici quelques semaines. Voilà, messieurs, donc c'est... Julien Giraud, je crois, qui commence la présentation.
J'éteins mon portable. Donc, bonjour à tous. Je mets ma présentation. Donc, merci à l'association de m'avoir proposé d'intervenir. En 2-3 mots, donc l'Observatoire régional de la santé, c'est donc une structure associative qui existe dans chacune des régions françaises et qui a vocation à apporter des éléments d'aide à la décision aux décideurs, qui peuvent être soit en l'occurrence l'Agence régionale de santé ou alors des collectivités territoriales type conseil régional. On a une partie aussi d'activité avec des associations. Voilà, donc nous on est là pour apporter des éléments le plus objectifs possible sur des thématiques particulières, là en l'occurrence l'obésité. Donc moi j'ai essayé à travers la présentation de dresser un panorama à la fois sur les données d'épidémiologie qui peuvent exister. Donc j'irai très rapidement sur des éléments un peu au niveau mondial, au niveau national, et puis essayer de recentrer quand les données sont disponibles sur le Poitou-Charentes. Quelques éléments aussi sur les déterminants les plus connus, ou en tout cas qui ressortent au niveau de la littérature, les déterminants de l'obésité. Donc une définition très rapide, mais là je pense que... Je vais aller très vite parce que M. Schmitt, après moi, va le faire beaucoup mieux que moi. L'OMS définit l'obésité comme une accumulation anormale ou excessive de graisse présentant un risque pour la santé. Donc le plus souvent, à travers les indicateurs que je vais présenter, moi en tout cas, la plupart du temps, l'indicateur qui est utilisé, c'est l'indice de masse corporelle, qui est le rapport sur le poids, la taille au carré, qui est un indicateur qui est efficace au niveau épidémiologique, c'est-à-dire au niveau macro, dans des grandes enquêtes, puisqu'il est facilement utilisable et qui donne des tendances assez intéressantes. Par contre, au niveau individuel, c'est un indicateur qui est peu prédictif de l'obésité à niveau individuel. Je pense qu'il est préférable d'utiliser, par exemple, le tour de taille ou des éléments qui sont plus précis. Toujours est-il que l'IMC est largement utilisé et donne des indicateurs de référence intéressants. Voilà. Donc on considère qu'un IMC supérieur à 30 définit l'obésité d'un individu. Chez les enfants, on a des seuils qui sont variables selon l'âge et le sexe pour cet indicateur. Je ne rentre pas dans le détail. Sur la prévalence au niveau mondial, donc là j'ai utilisé des données qui sont issues de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS, et qui fournit des indicateurs au niveau des grandes régions. Donc vous avez... la grande région Amérique qui présente près de 27% de population adulte en situation d'obésité. Les Mexicains seraient pas loin des Américains en termes d'obésité. L'Europe, bon voilà, en gros, vous avez les régions les plus développées et où l'alimentation est la plus, on y reviendra plus tard, mais où en tout cas le développement et la disponibilité d'alimentation est la plus développée. Et puis la France qui est à 16% selon l'OMS de prévalence d'obésité. Au niveau global, on aurait 12%, c'est-à-dire un individu sur 10 au niveau mondial qui serait en situation d'obésité. Moi, je vais surtout parler, j'ai surtout centré sur l'obésité, c'est-à-dire le problème le plus aigu. Je ne vais pas donner d'indicateur sur le surpoids. J'ai vraiment recentré sur l'obésité. Alors, peut-être que ce n'est pas un choix heureux parce que certainement le surpoids est encore l'air peut-être prédictif justement à des situations d'obésité, mais moi vraiment mon intervention est centrée sur les situations les plus extrêmes. Donc voilà, donc un individu sur 10 au niveau mondial serait en situation d'obésité, 10% pour les hommes et 14% pour les femmes. En 1980, les mêmes chiffres, c'était la moitié. Il y avait 5% d'hommes selon l'OMS qui étaient en situation d'obésité, 8% de femmes. Donc en 30 ans, les prévalences d'obésité auraient doublé. Bon, voilà une courbe qui illustre bien, on ne voit pas très bien, mais depuis 1978, l'augmentation de la prévalence de l'obésité, donc de 15% aux États-Unis à plus de 30%. Ici, vous avez l'évolution du Royaume-Uni. Et puis, une évolution qui est quand même, on a l'impression que la courbe monte moins vite, mais c'est quand même, ça double hein, quand même en France aussi, sur une période plus courte. Je vais revenir après sur la prévalence de l'obésité au niveau national. Donc, d'après les sources OMS, voilà, le cinquième facteur de risque de décès, le surpoids et l'obésité. La charge attribuable au surpoids et l'obésité, c'est-à-dire le poids de la maladie de l'obésité dans le diabète, ce serait 44%, 23% pour les cardiopathies ischémiques et 7 à 41% pour certains cancers. Donc, sur ces aspects, je dirais pathologie et complications. Moi, je serai très rapide sur ces aspects. 1,4 milliard de 20 ans et plus auraient un surpoids au niveau mondial. Plus de 200 millions d'hommes et 300 millions de femmes seraient obèses dans le monde. Voilà, donc ce que je disais, plus d'un adulte sur 10. Bon, voilà, pour quelques données de cadrage très, très général. Alors, au niveau national, donc il y a une enquête qui existe depuis 1997, qui est pilotée par le laboratoire Roche avec l'appui d'une unité de l'INSERM, qui fournit à intervalles réguliers, intervalles de 3 ans, un suivi des indicateurs de l'obésité et du surpoids dans la population générale. Donc la dernière étude date de 2012, 25 000 individus, l'échantillon national, un peu moins de 1 000 de suréchantillons, enfin c'est pas un suréchantillon, d'échantillons en Poitou-Charentes, donc effectivement un niveau de détail régional qui est beaucoup moindre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette enquête? 16% des femmes seraient en situation d'obésité en 2012 en France. 14% pour les hommes, ce qui donnerait à peu près 7 millions d'obèses en France. Et le phénomène intéressant par rapport aux périodes précédentes, et qui reste très largement à confirmer, c'est qu'on aurait une certaine forme de stabilisation de la prévalence de l'obésité en France. C'est-à-dire que la progression sur les périodes précédentes était plutôt de l'ordre de 19-18% au début. Et puis là, on aurait une progression de un peu moins de 4% de la prévalence de l'obésité sur la dernière période, c'est-à-dire sur 2009-2012. Donc, bon, pour avoir une vraie tendance, il faut attendre de voir si ça se confirme. Mais voilà, une indication qui vient stopper, casser, ralentir la courbe qui a été observée depuis 1997. Donc, l'enquête OBEPI, vu la taille de l'échantillon, permet un certain nombre de croisements, c'est ça qui est intéressant. Ce qu'elle nous dit, c'est que l'IMC augmente avec l'âge. Chez les 18-24 ans, il y a à peu près 5% de personnes qui sont en situation d'obésité. À l'inverse, chez les plus de 55 ans, on est à presque 20% d'obésité. Donc, on avance en âge et la prévalence de l'obésité augmente. Alors, sur le sexe, selon les enquêtes, on a parfois des prévalences de l'obésité qui sont plus importantes chez les femmes. Mais dans le baromètre santé, par exemple, les hommes sont plus souvent surpoids. Dans OBEPI, c'est plus souvent les femmes. En l'occurrence, quand on est sur de l'obésité plus, pardon, d'obésité morbide, c'est-à-dire un IMC supérieur à 35 voire à 40, là, les femmes sont quasiment toujours dans toutes les enquêtes beaucoup plus concernées par cette obésité très forte. Et l'enquête OBEPI indique que depuis 2003, la prévalence de l'obésité féminine augmente plus vite que celle des hommes. Concernant les catégories, donc les trois autres points, CSP, niveau d'instruction, lieu d'habitation, j'y reviendrai un peu plus loin en parlant des déterminants. À titre indicatif, on a quand même des choses qui sont très marquées selon le gradient social. C'est-à-dire que chez les artisans commerçants, on est à 17% d'obésité. Idem chez les agriculteurs et les ouvriers versus 9% chez les cadres. Donc vraiment une distribution, on le verra plus nettement sur un graphique plus loin, mais qui est vraiment très marquée, qui suit, comme beaucoup d'indicateurs de santé malheureusement, qui suit assez nettement le gradient social au niveau national. Encore plus discriminant, c'est le niveau d'instruction. C'est-à-dire que plus que la catégorie sociale et professionnelle, c'est le niveau de diplôme de l'individu qui va être encore plus marquer les différences de prévalence d'obésité. 7% pour les gens qui ont un diplôme supérieur de troisième cycle, près de 25% pour ceux qui ont un niveau primaire. Et puis, le dernier point qui me semblait intéressant, c'est-à-dire que spontanément, avant de se pencher sur la question, j'aurais plutôt eu tendance à dire que le phénomène urbain allait entraîner, en tout cas, on aurait observé des phénomènes d'obésité plus marqués en milieu urbain, et bien c'est vraiment tout l'inverse. Les différences sont moins marquées que pour les niveaux d'instruction, mais en tout cas, c'est plus au niveau rural, dans les petites communes de moins de 2000 habitants, que l'obésité est la plus forte. Ça s'accompagne, ça s'explique certainement, on y reviendra. Rapidement, au niveau de la distribution géographique de l'obésité, donc là, en haut, ce sont des sources enquête santé INSEE, en bas, c'est toujours l'enquête OBEPI, et là, on est sur des grandes zones. Les interprétations à l'échelle des régions administratives sont beaucoup plus périlleuses pour des raisons statistiques. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'évidemment, la prévalence de l'obésité augmente. Je suis désolé, vous voyez peut-être pas trop. Les chiffres sont petits, non, ça va. Ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, plus on avance dans le temps et plus la prévalence de l'obésité augmente, ça on l'a vu sur le graphique précédent. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que quand même, il y a certaines grandes régions qui sont, quelle que soit la source et quelle que soit l'époque, qui sont plus marquées par les prévalences de l'obésité forte. En l'occurrence, la grande région Est, le bassin parisien et le nord de la France. Chez les enfants, donc là, il y a différentes enquêtes. Ici, dans cette colonne, vous avez un certain nombre d'enquêtes. Ici, les enquêtes cycle triennal sont des enquêtes qui sont issues des recueils des personnels de l'éducation nationale à différents âges. Ici, c'est l'enquête nationale nutrition santé qui est pilotée par l'INVS. Ici, une autre enquête de l'INVS. Et puis là, ici, l'enquête nationale, individuelle nationale de consommation alimentaire. Donc, ce qu'on peut observer, je ne vais pas lire tous les chiffres, évidemment. Ce qu'on peut voir, c'est que malgré tout, les chiffres sont relativement homogènes. Quelles que soient les enquêtes, on est autour de 2 à 4,5% de prévalence de l'obésité. Et qu'on a une différenciation selon selon le sexe qui ressort également globalement dans les différentes enquêtes. Et la dernière ligne, donc c'est une enquête qui a été réalisée au niveau régional, Bien bouger, mieux manger, qui a été faite pour le groupement régional de santé publique avec l'appui de tout le personnel de l'éducation nationale, mais c'est dans des établissements volontaires. Donc on n'est pas sur un échantillon qui est forcément représentatif, donc avec beaucoup de prudence. Bon, j'ai mis les titres indicatifs. On est là aussi sur des prévalences de l'obésité qui sont assez proches de ce qu'il a pu observer dans ces grandes enquêtes nationales. Là, l'idée, il me semble, de cette diapositive, c'est plutôt retenir les ordres de grandeur. Et puis, le fait que quand on avance en âge, quand même, globalement, la prévalence de l'obésité augmente. Pour revenir sur une approche territoriale, ici, ce n'est pas cartographié, mais on est sur les mêmes grandes zones d'aménagement du territoire. On s'aperçoit que là encore, alors ici on est chez les enfants de classe de 3e en 2003-2004, on a les mêmes zones qui ressortent pour des prévalences plus fortes de l'obésité, à savoir le nord, le bassin parisien, l'est et puis les Antilles. On verra qu'à d'autres âges, les Antilles et la Réunion présentent là aussi des prévalences qui peuvent être encore plus fortes que dans le nord. Et puis l'ouest, la Méditerranée et le sud-ouest, qui globalement présentent des prévalences d'obésité moindres par rapport à la moyenne nationale. Donc là, c'est aussi vrai pour les classes de CM2. où on a encore le Nord, les Antilles, la région parisienne, le bassin parisien. Et puis à l'opposé, l'Ouest, la région méditerranée et le Sud-Ouest qui présentent des prévalences moindres par rapport à la moyenne nationale. Donc vraiment cette récurrence de zones géographiques qui présentent des spécificités. Évidemment en lien avec la structure de la population. Voilà, on reviendra sur les déterminants tout à l'heure. Donc là, on retourne au niveau national. Ici, sur les quelques diapositives qui suivent, ce que je voulais montrer, ce que j'ai pu découvrir à travers différents travaux, c'est que depuis 2000, la prévalence de l'obésité chez les enfants serait en phase, là aussi, de stabilisation. Ici, on a une enquête de l'INVS qui a été publiée en 2011, qui a porté sur voilà, des échantillons assez intéressants d'enfants de 7 à 9 ans scolarisés et qui montrent qu'entre 2000 et 2007, la prévalence de l'obésité, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, les différences, les évolutions n'ont pas été significatives. C'est-à-dire qu'on a à peu près les mêmes prévalences sur, de l'obésité sur cette période. Et donc les résultats, donc c'est une étude, l'intérêt c'était de voir si on retrouvait cette relative stabilisation qui reste à confirmer, mais qui est quand même maintenant sur une période assez longue, dans d'autres travaux, et les études 1K1 et 1K2, donc qui sont deux autres études qui sont situées sur le même intervalle, auraient tendance à montrer la même stabilisation de la prévalence de l'obésité sur cette période, c'est-à-dire depuis le début des années 2000. Voilà quelques exemples d'études internationales, c'est-à-dire que ces résultats seraient aussi retrouvés dans d'autres enquêtes au niveau de pays anglo-saxons, comme au niveau national, on pouvait regarder. Évidemment, il y a des écarts de quelques points, mais qui ne s'avèrent pas significatifs sur un plan statistique. Donc, on serait... toutes ces études tendraient à valider le fait que cette prévalence serait en phase de stabilisation de l'obésité. Alors, j'en discutais tout à l'heure. Moi, en lisant quelques travaux, on a du mal à trouver les origines de cette stabilisation de la prévalence de l'obésité chez les enfants. Évidemment, vous avez certainement entendu parler du plan national nutrition santé qui a été mis en place en 2001. Voilà, on peut se demander si ce plan national et les trois plans nationaux, puisqu'il a été décliné en PNNS 1, PNNS 2 et PNNS 3, commencent à avoir un effet par la distribution de guides nutrition, par la mise en place d'actions au niveau local, par la labellisation de certaines villes actives PNNS, par la loi de santé publique de 2004 qui interdit fait disparaître les distributeurs automatiques dans les lieux, dans les écoles. Voilà. Est-ce que c'est un certain nombre de dispositions nationales et locales sont responsables du changement de ces comportements? Voilà, c'est une question. Pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment d'évaluation, je dirais, vraiment factuelle du PNNS. Alors, en Poitou-Charentes, en population générale, ici, on a quelques résultats qui sont assez récents, qui sont issus du baromètre santé Poitou-Charentes 2010. Donc, là, on a un suréchantillon national assez intéressant, régional, pardon. Ce sont des données déclaratives, donc certainement, il y a une sous-estimation assez forte de la prévalence de l'obésité. C'est-à-dire qu'on demandait aux gens quel est votre poids, quelle est votre taille, et puis ensuite, les statisticiens calculent l'IMC. Donc selon cette enquête, comme vous le voyez tout à l'heure, on le disait, la prévalence de l'obésité augmente en âge. On aurait en 2010 11% des 15-85 ans qui seraient en situation d'obésité, toujours avec cette notion qu'il y a certainement une sous-estimation. Et par contre, là, cette enquête aurait tendance à montrer qu'il y a une augmentation de l'obésité depuis 2000. Donc là, on est chez les adultes, hein, tous âges confondus, enfin chez les 15-85 ans. Et là, le surpoids concerne plus fréquemment les hommes. La situation serait identique sur un plan statistique avec les données nationales. Donc, pour parler de l'évolution de la prévalence de l'obésité au niveau régional, voilà quelques chiffres de la même enquête que tout à l'heure, c'est-à-dire au BEPI, avec l'échantillon qui a été interrogé au niveau du Poitou-Charentes. Donc ce qu'on observe et ce qu'on peut retenir, c'est que là aussi, l'évolution qui est constatée au niveau national comme régional aurait tendance à se ralentir et qu'on aurait, sur la dernière période 2009-2012, une évolution qui serait plus favorable que ce qu'elle était auparavant. C'est-à-dire que là aussi, on aurait, sur la dernière période, plutôt une tendance à la stabilisation de la prévalence de l'obésité chez les adultes. Encore une fois, sur 3 années, hein, c'est très peu. Hein. Donc il faut vraiment valider cette tendance. Donc l'enquête au BPI, c'est quand même que 700 individus questionnés dans la région, donc il faut être très prudent à mon avis. Elle donnerait, si on extrapolait ces résultats, l'idée qu'on a à peu près 200 000, on aura à peu près 200 000 personnes obèses en Poitou-Charentes, et on en aurait eu plus de 90 000 en plus depuis 1997. Donc ça donne, quantitativement, c'est important d'avoir ces notions-là en termes de population. C'est-à-dire, c'est deux fois Poitiers, quoi, hein, dans la région. Chez les enfants, quelques données régionales. Ici, on est sur les enfants à 6 ans, en 2005-2006. Sur 99-2000, même prévalence du surpoids qu'en 2005-2006. Même prévalence également de l'obésité, 3,2% des enfants. Et puis, bon, d'après cette enquête, qui sont issues là sur des données mesurées, hein, c'est-à-dire recueillies par les infirmières scolaires, une prévalence un peu plus importante qu'au niveau national, plus importante de l'ordre de 5 à 10%. Alors, on arrive à la partie déterminant. Donc ça, c'est issu d'un rapport qui a été produit pour le Sénat par Madame Bou en 2010, et qui avait repris ce schéma elle-même d'un rapport qui avait été fait pour le gouvernement britannique et qui proposait de classer les déterminants de l'obésité selon 7 grandes dimensions qui elles-mêmes regrouperaient une centaine de déterminants. Donc ces grandes thématiques, ce serait l'influence liée à la société, on va y revenir un peu plus en détail, la production d'aliments, la consommation alimentaire, les aspects biologiques, l'activité individuelle. Souvent, hein, c'est vrai que les programmes qu'on entend, souvent on a l'impression, l'approche de la prévention est très centrée sur ces phénomènes-là, l'activité individuelle. Hein. Si vous voulez prévenir l'obésité, ben mangez mieux et puis faites plus de sport. Or, la prévention de l'obésité, a priori, ça doit concerner tout ça. Et les activités liées à l'environnement. Alors, il y a un schéma que moi, j'ai préféré. J'ai mis les deux, comme je n'ai pas su trancher, j'ai mis les deux. Celui-là, il est issu de travaux de l'OMS. Je le trouve peut-être plus parlant. Donc, on aurait comme déterminant de l'obésité des facteurs internationaux qui nous impactent indirectement. La globalisation des marchés, ou même très directement, l'industrialisation, la publicité, toutes les grandes politiques, qu'elles soient nationales ou régionales, et qui vont à toutes ces politiques impactant à la fois la politique des transports, de l'aménagement urbain, de la disponibilité, de l'accessibilité alimentaire, etc., etc. Et puis au niveau individuel, effectivement tout ce que nous on peut faire pour avoir un bilan entre l'apport alimentaire et la consommation d'énergie qui soit la moins favorable au développement de l'obésité, c'est-à-dire l'activité physique dans les loisirs, l'alimentation, l'image du corps qu'on peut avoir. Et enfin, des aspects vraiment propres à chaque individu, les aspects génétiques et les aspects biologiques. Donc moi, j'ai essayé dans les diapos qui suivent de décliner assez rapidement ces différents déterminants et ce qu'on pouvait en dire. Sur le rôle de la génétique, alors, je pense que les connaissances sont encore visiblement assez lapidaire. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a certaines études ont été menées sur des jumeaux. Sur des jumeaux qui ont montré que des jumeaux qui étaient séparés ou qui étaient élevés avec les mêmes comportements allaient avoir des IMC qui seraient très proches. Donc il y a eu des interprétations sur le fait qu'effectivement, il y aurait un facteur génétique. Alors le facteur génétique seul ne suffit pas et qu'évidemment, ce serait uniquement des prédispositions génétiques qui, mis dans un cadre favorable au développement de l'obésité, pourraient contribuer au développement de l'obésité. Donc la génétique, mais la génétique pas seule, dans un contexte défavorable. Les déterminants biologiques, c'est-à-dire les aspects qui vont permettre à notre corps de de réguler à la fois l'apport en aliments et les dépenses énergétiques. Et quand il va y avoir une dérégulation soit du signal sur les réserves énergétiques, soit du traitement de l'information, soit de l'opérateur qui permet de changer la prise ou la dépense énergétique, soit du signal de retour sur l'état des réserves énergétiques du corps. Donc à un moment, quand il y a une dérégulation de ces éléments-là, il va y avoir un développement de l'obésité qui sera plus facile. Les déterminants précoces de l'obésité. Donc certaines études ont montré que le petit poids de naissance, ce sont des études des débuts des années 80, le petit poids de naissance pouvait être associé dans certains cas à une prévalence plus forte de l'obésité. Et sur autres déterminants précoces de l'obésité, le rebond d'adiposité qui aurait lieu avant 6 ans. C'est-à-dire qu'a priori, avant 6 ans, l'enfant va avoir un développement de masse de graisse dans les cellules. Et quand ce développement va intervenir avant 6 ans, on va avoir des facteurs qui vont être favorables au développement de l'obésité au moment de l'adolescence. Donc juste, moi, j'ai trouvé que ce graphique pouvait illustrer cet aspect-là. C'est une enquête là aussi qui est faite sur les enfants scolarisés en classe de 3e et qui faisait état de la prévalence du surpoids des 3e. Donc ici, c'était en 2003-2004 et on regardait quel était leur statut à 6 ans. Et donc à 6 ans, plus de 30% des jeunes de 3e qui étaient en situation obèse étaient déjà obèses à 6 ans. Donc, si on ajoute le surpoids, il y a 60% des jeunes de 3e qui étaient soit en surpoids, soit en obésité déjà à l'âge de 6 ans. Sur les déterminants psychologiques, j'ai trouvé cette phrase qui est assez intéressante. Par son faible coût et sa grande disponibilité, la nourriture reste le meilleur antidépresseur, c'est-à-dire que manger procure un plaisir efficace et immédiat et qui permet de combattre à la fois le vide interne, l'insatisfaction globale, l'anxiété, un état de dépression. Donc un aliment, ça peut être assez facilement quelque chose qui vient combler un état de détresse psychologique ou de mal-être. Et à la fois, quand on est obèse et qu'on va pouvoir être malheureusement victime d'une certaine stigmatisation sociale, on va avoir une certaine dépréciation personnelle qui va faire qu'on va se retrouver là aussi dans une situation pas bien et qu'on va pouvoir développer des troubles du comportement alimentaire. Les comportements alimentaires, c'est peut-être ceux-là les plus mis en avant et les plus connus. La sédentarité, qui va entraîner effectivement une réduction de la dépense énergétique. Le temps passé devant les écrans, qui aura un effet encore plus accentué que la sédentarité globale. La prise de boissons sucrées, qui a un double effet apport calorique et un effet satiété limitée, c'est-à-dire que notre corps aurait plus de mal à se rassasier quand l'apport calorique est liquide. Le grignotage, qui est une mauvaise prise en compte par l'organisme de la régulation apport-dépense et non prise en compte dans le repas suivant. C'est-à-dire que quand on grignote, c'est pas pour ça qu'on va moins manger au repas suivant. Et un stockage plus important des lipides, les troubles du comportement alimentaire et la réduction du temps de sommeil. Depuis le début des années 2000, il y a une soixantaine d'études qui ont bien établi la relation entre le manque de sommeil et le développement de facteurs permettant, de troubles du métabolisme qui pourraient favoriser le développement de l'obésité. Or, le temps de sommeil s'est réduit de plus d'une heure et demie depuis les années... je ne sais plus, j'ai noté, mais le temps de sommeil en population générale s'est fortement réduit. Ce petit graphique, très rapidement, qui est issu du rapport Toussaint, qui montre la réduction du temps d'activité quotidienne des Français, donc de l'ordre de 8 heures quotidiennes au début du XXe siècle, à 1 heure en moyenne aujourd'hui. Dans le même ordre d'idées, ici, vous avez... une enquête qui vous montre d'une part ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, c'est-à-dire que l'obésité, ici c'est chez les enfants de grande section maternelle et la CSP du père, 1,2% de prévalence de l'obésité chez les enfants dont le père est cadre, 4,3% chez les enfants dont le père est ouvrier. Ici le temps passé devant un écran, 1 heure ou plus, 24% chez les cadres 47% chez les ouvriers. Consommation de boissons sucrées, vous voyez que là aussi les différences sont importantes. 4 fois ou plus par semaine de consommation de boissons sucrées, 20% chez les cadres et le double chez la population ouvrière. Idem pour la consommation de légumes et pour la consommation de fruits, des écarts relativement importants. Je me dépêche. Les troubles du comportement alimentaire, un indicateur ici régional, il y a à peu près 9% de la population régionale qui souffrirait de troubles alimentaires, c'est-à-dire manger énormément avec de la peine à s'arrêter, manger en cachette. Alors ici, ce sont des façons détournées hein, de trouver d'identifier ces troubles alimentaires, mais voilà, à peu près 9% de la population qui souffrirait de troubles alimentaires, plus souvent les femmes. Les déterminants sociaux, culturels, économiques, évidemment, il y a des spécificités. On mange pas, même si le mode de consommation de l'aliment se standardise, on en manque malgré tout des consommations alimentaires qui sont différenciées selon les cultures nationales ou selon le lieu où on vit. Il y a certaines études qui montrent bien que les consommateurs de poissons se trouvent le long des côtes. Ça paraît logique, mais ça existe encore. Des cultures alimentaires différentes selon la classe sociale. Il y a une relation différenciée entre les aliments et santé selon le milieu de vie, selon la façon dont on a pu être confronté et mis en relation avec l'alimentation. Et évidemment, les contraintes budgétaires. Les populations les plus fragiles sur un plan budgétaire ayant un objectif de satiété pour un moindre coût, évidemment. Le poste budgétaire pouvant aller dans les populations les plus défavorisées, de l'ordre ça peut représenter 50% du budget, alors qu'en population générale, c'est 15% le poste alimentaire à peu près. Et il faut savoir qu'il y a une étude qui a été menée sur les bénéficiaires de l'aide alimentaire, l'étude ABENA, qui montre que chez eux, la prévalence de l'obésité, c'est 27%, c'est-à-dire ce qu'on observe aux États-Unis. Alors là, il doit me rester vraiment plus beaucoup. Je vais aller à la conclusion. Bon, donc là, c'est idem, c'est la même idée. C'est-à-dire que là, c'est un autre ratio. Donc, c'est une enquête qui montre que pour des enfants, le risque d'être en surpoids ou en obésité est 3 fois plus important chez les ouvriers non qualifiés que chez les enfants de cadre. Idem, la même idée. Là, on revoit bien le gradient social en fonction du revenu du foyer. Et vous voyez la prévalence de l'obésité, les écarts qu'il peut y avoir. Les facteurs environnementaux, le prix des produits agricoles, on a eu une chute des produits agricoles, donc là sur un temps très long, hein, évidemment. Les incitations à la consommation, la publicité, etc. Donc vraiment les facteurs très globaux. Le budget prévention de l'INPES, c'est 10 millions d'euros par an. Le budget de l'industrie agroalimentaire pour la publicité, c'est 1,2 milliard. Les modifications nutritionnelles, le fait qu'on ait modifié la façon de produire les aliments, l'impact de la sédentarisation, on l'a vu, l'impact du développement technologique, maintenant on n'est plus obligé de sortir de sa voiture pour ouvrir son portail, hein. Les nouveaux déterminants de l'obésité, alors là, j'avoue que je pense que là on est encore sur des aspects recherche, le stress, les médicaments, les polluants ou perturbateurs endocriniens, là on est encore sur des choses exploratoires, mais il y a encore des travaux qui pourraient mettre en lien ces déterminants et l'obésité. Ça, je l'ai dit. Hop, oh non, je vais dire, je donne ma conclusion quand même. Donc, moi, les éléments que j'ai retenus, une stagnation de la prévalence de l'obésité, j'ai mis un point d'interrogation quand même, parce que chez les enfants, ça semble depuis 10 ans se confirmer, chez les adultes, on n'a que cette information, on subodore ça sur les 3 dernières années, donc vraiment à confirmer. Le fait est que c'est une pathologie vraiment au carrefour de déterminants vraiment multiples et qui interagissent entre eux. Donc c'est vraiment très complexe et qu'il ne s'agit pas uniquement de mettre en place des actions de prévention sur les facteurs individuels parce que, a priori, c'est très, très difficile. Ça ne peut pas suffire. De la place pour la recherche parce qu'on ne connaît vraiment pas tout. Il n'y a pas de déterminisme et que voilà, il faut vraiment agir sur l'environnement global des individus. Et puis voilà, en forme de est-ce que l'obésité ne serait pas une adaptation physiologique subie à notre mode de vie, voilà, le fait qu'on ne bouge plus, qu'on mange différemment. J'ai fini.
Merci beaucoup Julien Giraud. Alors, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on enchaîne les deux interventions. On fera le débat après. Donc, maintenant, c'est le docteur Bernard Schmitt qui nous vient de Bretagne.
Je vais enlever ça.
J'aurais peut-être dû le mettre sur le disque dur.
Non, c'est rien.
Bien, alors, vous savez tout maintenant. Donc, je vais tâcher de compléter un peu ce qui vient d'être dit. Et peut-être que sur certains points, je vais être en contradiction, mais tant mieux. Tant mieux parce que ça permettra d'ouvrir le débat après et chacun à notre niveau de répondre à ce type d'interrogation. Alors, dans mon métier de médecin et de chercheur, il est évident que le thème alimentation santé, c'est, j'allais dire, c'est ma tasse de thé. Et j'ai décidé ce soir de vous parler, certes, de l'obésité, mais pas que. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, on verra que les trois premiers chapitres de cette diapo sont liés très étroitement et sont liés également au problème du cadre de vie, de l'environnement, mais dans les deux sens, c'est-à-dire que les maladies vont influencer le cadre de vie, mais le cadre de vie va influencer sur l'apparition de ce type de pathologie. Alors, vous reconnaissez aussi la même diapo un peu différente, et je vous la remontrerai encore une fois. Mais globalement, c'est vrai que, mais je ne vais pas revenir là-dessus, la consommation des Français et dans le monde, ça a changé, donc avec un déséquilibre de la balance énergétique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la quantité monétarisée que l'on met dans le budget familial a évolué et que l'alimentation, qui était le premier chapitre de dépenses dans les années 60, est devenue beaucoup plus faible aujourd'hui, à l'inverse du logement qui a explosé. Et on voit bien que sur le plan des ressources économiques, les choses ont largement changé. D'une part, grâce à la révolution verte et au progrès de l'agroalimentaire, ça c'est certain. Et d'autre part, on voit que l'habillement, qui était aussi un gros merci des Chinois, actuellement vous n'avez plus de tissus d'origine européenne, hein. Par contre, la santé, ça c'est la partie qui est à charge. Je ne sais pas où est ma flèche. Voilà. La partie à charge des ménages, c'est indépendamment, bien entendu, des remboursements de la sécurité sociale et des remboursements des mutuelles. Donc on voit que ça a augmenté. Et c'est aussi peut-être un signe, indépendamment des problèmes de déremboursement, c'est que l'état de santé des populations s'est également détérioré pendant cette période. Alors, regardons. Effectivement, l'état de santé s'est détérioré. Ça, je ne reviens pas sur les chiffres, vous en avez eu suffisamment, donc c'est pas la peine. Sauf que ce problème a été repris en main par nos politiques, ce qui est légitime. Vous avez ici le rapport devant l'Assemblée nationale en 2008, qui a précédé le rapport dont vous a parlé tout à l'heure, et qui montre bien que les pouvoirs publics sont très sensibles à cette évolution des choses. Le problème, c'est de savoir quels sont les déterminants sur lesquels on va pouvoir jouer. Alors, le constat que nous faisons, nous, médecins, mais que tout le monde fait, c'est que tout est complètement imbriqué et que tout est complètement dangereux. Et que le diabète, le cancer, l'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde, le surpoids, l'obésité et tout ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est-à-dire en fait ce mix de toutes ces pathologies, ça augmente et ça devient un véritable problème. Alors, regardons simplement comme ça les maladies cardiovasculaires. Et c'est intéressant ce graphique, tâchez de le retenir dans votre tête parce que je vais vous en montrer un autre après. Grosso modo, il y a un gradient. Et ce gradient, c'est nord-sud, c'est-à-dire les pays anglo-saxons et les pays du nord de l'Europe sont beaucoup plus à risque que les pays du sud de l'Europe et méditerranéens, exception faite du Japon, qui est le premier de la classe. Et on verra que c'est grâce aussi à des particularité. Comment ça marche, ça? Non, c'est pas comme ça. Toc. Non. Alors, attendez voir. Là, il y a eu un petit gag. Bon, voilà. Si je regarde les régions françaises, on vous l'a montré, vous voyez qu'il y a des régions françaises en rouge qui sont des régions dangereuses. Et grosso modo, on va partir de l'Alsace. Je suis alsacien d'origine. Hein. Bonjour les dégâts. Et puis, vous avez la Champagne-Ardenne, vous avez le Nord-Pas-de-Calais, vous avez la Normandie et vous avez la Bretagne. Et à l'inverse, vous avez d'autres régions qui sont beaucoup moins à risque, dont le Poitou-Charentes, dans une certaine mesure, vous voyez, ce qui est tout à fait très bien pour vous. Mais on reviendra sur le problème après. Le diabète, même chose, une véritable pandémie internationale, mondiale, grosso modo, en 15 ans, le nombre de diabétiques dans le monde a doublé. Je ne risque pas d'être au chômage en tant que diabétologue. L'obésité. Alors, venons au cœur du problème. Et je dis une catastrophe annoncée. Alors, regardez ce diagramme. Il n'est pas présenté de la même manière que les maladies cardiovasculaires tout à l'heure, mais c'est exactement le même diagramme. C'est-à-dire qu'on a les pays anglo-saxons du nord de l'Europe qui sont les premiers de la classe, enfin les derniers plutôt, et puis vous avez le Japon qui est le meilleur. Donc on est bien dans des déterminismes qui sont relativement identiques. Alors je vais vous montrer un truc aux États-Unis. Alors regardez bien, ça passe tout seul. D'année en année, le nombre d'obèses, état par état, en pourcentage de la population totale. On est en 94, 19%, 97, 20% des obèses, 2000, 2001, 25%, 2004, 2005, c'est 30% de la population qui est obèse. Et là, on s'arrête en 2010, je crois que ça suffit. Ça, c'est les derniers chiffres. Vous pouvez télécharger ça sur Internet, hein, vous l'avez en accès libre. Et ça vous montre l'évolution catastrophique de l'obésité aux États-Unis. Alors, est-ce qu'il n'y a que les États-Unis ? En France, on vous a montré cette carte tout à l'heure, et on voit bien qu'on arrive à peu près là aussi dans un gradient nord-sud, c'est ça qui est tout à fait étonnant, et un gradient est-ouest. Et ce gradient nord-sud et est-ouest, avec cette coulée-là, et retenez-la parce qu'on va la revoir tout à l'heure. Bon, ça, c'est des chiffres, je vais passer. Ça, c'est des chiffres. C'est pareil, on vous les a montrés, je ne vais pas insister. Ça, c'est pour le gradient nord-sud et est-ouest, je ne vais pas insister. Et regardez chez les enfants. Eh bien, chez les enfants, on arrive à 15%. Alors, même si actuellement, il semblerait qu'il y ait un léger tassement depuis les années 2000, c'est quand même assez extraordinaire de voir que toutes les enquêtes qu'il y a eu depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui montrent une prévalence et une incidence de l'obésité infantile qui est tout à fait catastrophique. Alors, ça veut dire qu'il y a un caractère épidémique. Est-ce qu'il échappe tout à fait, mais dans une certaine mesure, certainement. Et ça pose un véritable problème de santé publique qu'on va aborder tout à l'heure. Alors, bon, je vais passer. Regardez simplement si j'ai lié dans mon propos cancer, maladie cardiovasculaire et obésité, c'est que vous voyez que ces cartes, eh ben finalement, elles sont identiques. Alors, lorsque vous avez une répartition géographique aussi proche les unes des autres, ça veut dire qu'il y a un dénominateur commun à toutes ces pathologies et que ce dénominateur commun, si on ne le met pas en évidence, eh bien, toutes les politiques de santé publique qu'on est susceptible de mettre en place sont vouées à l'échec. Donc, c'était un petit peu la réflexion en tant que chercheur que nous étions fixés, car s'il a fallu 2,5 millions d'années pour arriver jusqu'à ce stade, pas mal foutu, il n'a fallu que quelques décennies pour arriver à un état de catastrophe. Et toute la question est de savoir est-ce que et combien de temps faudra-t-il pour revenir à un état normal? Et est-ce que cet état normal est possible encore aujourd'hui, compte tenu du mode de vie que nous avons? Alors, je ne vais pas insister. Vous savez que c'est l'indice de masse corporelle. Voilà la formule. D'autre part, vous avez un autre système qui est l'impédance-métrie. L'impédance, c'est la résistance électrique en courant alternatif. Alors il y a des balances impédance-métriques, vous pouvez même en acheter des Terrayons à 100 balles au supermarché du coin. Vous mettez un pied sur la balance, il y a le courant électrique qui passe, et si vous avez beaucoup d'eau et beaucoup de graisse, le courant passe facilement. Si vous avez beaucoup d'os ou beaucoup de muscles, le courant passe difficilement, et on peut donc, en fonction de la fréquence du courant alternatif, mesurer la quantité de graisse. Eh bien, regardez, ça c'est intéressant pour plusieurs points. Vous avez ici la masse grasse déterminée par l'impédance. Chez les femmes, c'est à peu près 30% de matière grasse, et chez les hommes, c'est à peu près 20% de matière grasse. Et vous avez ici l'indice de masse corporelle. La normale, c'est entre 20 et 25. Et dans les patients, par exemple, que j'ai testés ici, vous avez des gens qui ont un poids parfaitement normal. Mais chez les femmes en rouge, vous avez des femmes qui ont beaucoup plus que 30% de matière grasse. Autrement dit, ce sont des obèses qui s'ignorent. Elles n'ont plus de muscles, elles n'ont que de la graisse à la place des muscles. Et donc, il ne faut pas penser que l'obésité, c'est uniquement des gens énormes. Et ça, c'est un vrai problème, notamment chez les personnes âgées, en institution ou à domicile, car ce problème d'absence de muscles remplacé par de la masse grasse, c'est le facteur déterminant de la dépendance. Et que donc, on a aussi à lutter contre ce genre de truc. Alors, bon, je ne vais pas venir là-dessus. Simplement, avec des étudiants, je me suis amusé. Là, c'était un patient qui était dans mon service, qui a accepté que je le photographie. Et avec des étudiants, on a calculé, on l'a remis à niveau. Hein, on l'a remis à niveau et on a calculé la partie jaune, c'est-à-dire la masse grasse qui était en trop. Et là, on était arrivé par un calcul savant à peu près à 40 litres. C'est-à-dire, imaginez 40 bouteilles de 1 litre sur la table, là, c'est toute la graisse qu'il avait en trop. Donc, des obésités monstrueuses comme ça, ça existe. Et quand on voit la nécessité, le 1 gramme de graisse égale 9 calories, alors pour le fabriquer, mais il en faut autant pour la faire disparaître. Alors, vous pouvez imaginer la difficulté qu'on va avoir à maigrir. Alors, différentes hypothèses. Viennent, alors là je vais aller très vite parce que c'est très scientifique et que finalement vous vous en fichez, mais grosso modo, une cellule graisseuse, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, c'est une cellule endocrine qui fabrique plein d'hormones et que ces hormones rentrent en régulation avec l'ensemble, dialogue avec l'ensemble de l'organisme. Donc quand on veut faire maigrir, il ne s'agit pas de vider la partie jaune qui est la partie pleine de graisse, il s'agit aussi de jouer sur l'ensemble de ces hormones. Chose intéressante, c'est que sur la cellule graisseuse, il y a des récepteurs du système adrénergique, c'est-à-dire du système parasympathique et sympathique, l'adrénaline, hein, que vous savez, le stress. Bon. Et ça, c'est très intéressant parce que certains récepteurs ont un effet antilipolytique, c'est-à-dire en fait un effet d'accumulation, et d'autres récepteurs ont un effet de lipolyse, c'est-à-dire de baisse de l'adiposité. Et je vous montre simplement ceci, et ceci est très important parce qu'il y a une différenciation selon les sexes. Vous savez que les femmes ont de la graisse dans les hanches et dans les fesses. Et cette graisse, elle est dépendante strictement de certains facteurs et elle n'est mobilisable qu'au moment de la grossesse. Donc vous avez beau maigrir, mesdames, si vous avez un peu trop de poids, ben vous maigrirez du visage, du buste, mais pas des fesses et pas des hanches. Sauf si vous êtes enceinte et que vous êtes en carence alimentaire, là vous maigrirez des fesses et des hanches. Et c'est en fait une réserve qui est dans l'évolution phylogénique de l'espèce, nécessaire dans les périodes de disette, de famine, etc., pour permettre à une population donnée et à une femme de mener à bien une grossesse dans le cadre de la survie de l'espèce. A l'inverse, chez l'homme, la graisse, elle est abdominale, proche du foie, proche du tronc-porte, immédiatement mobilisable grâce aux catécholamines, c'est-à-dire à l'adrénaline et à la noradrénaline, parce que traditionnellement, enfin génétiquement, ils étaient destinés à aller chercher la panthère avec leurs flèches et leurs arcs du temps du paléolithique et de ramener la panthère sur l'épaule, ce qui nécessitait une énorme énergie. Or, aujourd'hui, aucun de nous ne va chasser la panthère et que donc c'est le frigo ou le congélateur à la maison qui joue ce rôle-là, et que finalement on n'a qu'à rester dans son fauteuil, on ne se dépense plus, d'où la bedaine chez les hommes, et puis quand même un petit peu trop de fesses et un peu trop de hanches chez les femmes. Alors, effectivement, la masse grasse, c'est la balance énergétique. Je passe très rapidement, hein, parce qu'on a d'autres choses plus intéressantes à voir. Et puis, il y a la dérégulation de l'adipocyte avec des hormones, je ne sais pas où est ma flèche, voilà, avec des hormones ici qui sont extrêmement intéressantes sur le plan intellectuel et scientifique et qui mettent en jeu le problème de l'insuline. Et c'est pour ça que le diabétique, c'est un obèse qui s'ignore ou que l'obèse est un diabétique à venir. Et que ces deux pathologies sont liées, et qu'on sait aussi que les problèmes cardiaques sont liés aussi au problème de l'insuline et de la résistance à l'insuline. Alors, je ne vais pas vous le commenter, mais c'est pour vous montrer que la régulation du poids, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué qui met en œuvre à la fois l'estomac, le tube digestif, et en particulier la nature des bactéries du tube digestif qu'on appelle le microbiote. C'est depuis 2-3 ans qu'on s'est beaucoup penché là-dessus et que c'est particulièrement intéressant parce que ça influence considérablement tous les problèmes métaboliques, les problèmes immunitaires et donc les problèmes de régulation du poids et du diabète. Et puis, vous avez la cellule graisseuse qui émet un certain nombre d'hormones. Vous avez le foie et tout ça, c'est le cerveau, les parties du cerveau. Et vous voyez que c'est compliqué. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça régularise le centre de la faim qui est ici et le centre de la satiété qui est là. Et comment régulariser ce centre de la faim et de la satiété? Eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et vous verrez des scientifiques qui vont dire l'obésité, c'est ça. D'autres diront non, c'est ça. Des troisièmes, c'est ça. En fait, c'est un mix de tout ça, mais c'est extrêmement difficile à individualiser. Dernière chose, vous avez sans doute entendu parler des endocannabinoïdes. Le cannabis, c'est quelque chose qui calme les gens. Quand les gens sont en état de manque, s'ils fument un joint, ben, ils se sentent d'un seul coup très bien. Et on a pu mettre en évidence qu'il y avait des récepteurs au cannabis au niveau des synapses du cerveau, donc des cellules nerveuses du cerveau, et que quand le cannabis arrivait, ben, ça calme les choses et on se sent à l'aise. Or, il arrive que ce récepteur ne marche pas très bien et qu'à ce moment-là, on ait besoin de le calmer par d'autres moyens. Et comment est-ce qu'on va le calmer? Par le tabac, par le chocolat, par la bouffe, c'est-à-dire par des choses qui agissent sur ce récepteur. Et c'est que comme ça, mon voisin vous parlait de la dépression qui était peut-être un facteur et ça met en œuvre les récepteurs cannabinoïdes et il y a des médicaments actuellement qui bloquent ces récepteurs pour calmer la boulimie des gens. Je peux vous assurer que je l'ai essayé, c'est quand même pas la panacée. Alors, j'arrive un peu au cœur de mon problème. Je me trouve confronté à un certain nombre de problèmes. Je vous ai montré ça, c'est pour vous montrer la complexité. Que choisir là-dedans et qu'est-ce qui va m'aider à avoir une politique de santé publique? Alors, j'ai regardé, pas que moi, nous avons regardé un certain nombre d'études et on sait que chez les Esquimaux du Groenland, il y a 10 fois moins d'infarctus du myocarde que chez les Danois. Le Groenland est encore un territoire danois, que chez les Danois continentaux. Et puis, il y a de l'obésité, mais pas une obésité pathologique, pathogène. Donc là, il y a un problème sur le mode culturel. Il y a une étude, l'étude des 7 contrées, qui a montré exactement la même chose. Et puis, l'étude lyonnaise, faite par mon collègue de Lorgeril, qui a montré également que quand on rajoutait certaines graisses, dites bonnes graisses, ce sont les oméga-3 et on va y revenir, eh bien, on avait des problèmes beaucoup moindres. Et on a pu voir également sur les populations migrantes, alors les populations migrantes Afrique du Nord, France, mais populations migrantes Japon, États-Unis, qu'à la première génération, ces populations avaient exactement le même profil pathologique que dans le pays d'origine, deuxième génération, puis troisième génération, ils rattrapaient le pays d'accueil, ce qui veut dire que le mode de vie et le mode alimentaire sont complètement déterminants sur le plan des pathologies qui sont en cours. Alors, c'est de ces constats qu'est arrivée la notion du régime méditerranéen, car effectivement, en Crète en particulier, eh bien, on s'est aperçu que les gens mouraient beaucoup moins de maladies cardiovasculaires, avaient beaucoup moins d'obésité, avaient beaucoup moins de problèmes pathologiques dits de civilisation. Et on a cherché pourquoi, et on s'est aperçu que finalement, quelle que soit l'origine, c'était des gens qui avaient beaucoup d'oméga-3 dans leur alimentation. Alors, à partir de ces constats, il y a eu les grandes préconisations, notamment du PNNS, dont on vient de vous parler. Il fallait manger moins, puisqu'on mange trop. Il fallait diminuer les graisses de façon générale, les graisses animales, les charcuteries, et au contraire, augmenter les graisses végétales, le poisson, les laitages pour le calcium, 5 fruits et légumes, c'est le slogan que tout le monde connaît, et puis de l'exercice physique. Alors, OK, j'ai fait ça pendant 20 ans. Enfin, pas tout à fait, mais si, quasiment, allez, pendant 20 ans. Et le résultat, comme sur le plan général, eh ben, on n'a pas réussi à un truc. C'est qu'on a quand même continué à augmenter les graisses dans notre alimentation. Par contre, c'est vrai qu'on a quasiment doublé le nombre de graisses d'origine végétale. On a augmenté un petit peu les graisses d'origine du lait, mais le beurre, non. Donc, c'était plutôt bien parce qu'on a augmenté les produits lactés. Pas forcément le lait, mais les produits lactés. Et puis, le porc, c'est resté stable. Les œufs, c'est resté stable. Les œufs ont, paraît-il, mauvaise réputation à cause du cholestérol. Je peux vous dire que ça, c'est de la connerie. Enfin, excusez-moi. Mais on peut manger des œufs. C'est pas ça qui modifie le cholestérol. Les volailles ont augmenté. C'est plutôt bien. Le poisson a augmenté. C'est plutôt bien. Donc, finalement, la population française s'est plutôt bien comportée par rapport aux préconisations que je vous ai montrées. Malgré ça, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, alors, de deux choses l'une. Ou bien on était de mauvais pédagogues, ou bien l'objectif qu'on a poursuivi était un mauvais objectif. Ou bien c'était les deux à la fois. Ou bien c'est qu'on n'a rien pigé. Mais en tout cas, on a eu beau faire ça, ça n'a pas marché. Donc, je pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, c'était un peu le deal que nous nous sommes expliqués, fixés. Et l'idée, c'était de dire, ben, finalement, regardons un peu la nature des graisses que nous consommons. Et dans la nature des graisses, il y a des graisses qu'on consomme directement sous forme d'huile ou sous forme de beurre. Et puis, il y a des graisses qu'on consomme indirectement. Quand on consomme un beefsteak, il y a de la graisse dedans. Quand on consomme une escalope de porc, il y a de la graisse dedans, etc. Donc, il y a des apports directs et des apports indirects. Alors, dans les apports directs, que ce soit pour l'assaisonnement d'une salade ou que ce soit pour la friture, aujourd'hui, quels sont les principaux apports ? Eh bien, c'est d'une part l'huile de palme et d'autre part l'huile de tournesol. Notamment les margarines dites de régime. Et ces huiles-là sont quoi ? Eh ben, c'est des graisses dites saturées, je vous expliquerai après ce que c'est, et des graisses dites oméga-6. Lorsqu'on regarde la manière dont on alimente le bétail aujourd'hui, quel que soit le bétail, c'est quoi ? Eh bien, c'est le maïs, c'est le soja et c'est l'huile de palme. C'est-à-dire oméga-6 et saturé. Et de fait, quand on regarde la quantité d'oméga-6 consommée dans le monde, que ce soit aux USA, Canada, en Angleterre ou en Australie, mais en France également, eh bien, on a une augmentation considérable de la consommation d'oméga-6 et de saturé, puisque oméga-6 et saturé sont largement liés l'un à l'autre. J'ai un collègue qui est Gérard Rayot, qui est au CNRS à Nice, Sophie Antipolis, qui a gardé dans son laboratoire des échantillons de lait de femme depuis l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Et on a fait une analyse de la et puis de lait de femme, de lait de vache et de lait dit maternisé. Et on a fait récemment une analyse, donc en 2006, de la composition des graisses de ces laits. Et qu'est-ce qu'on constate ? Juste dans l'après-guerre, la quantité d'oméga-6 par rapport aux oméga-3 était de 5. 5 oméga-6 pour 1 oméga-3. Aujourd'hui, on est aux alentours de 20. Vous verrez tout à l'heure que la préconisation de l'AFSA, des experts de l'AFSA dont je fais partie, on est arrivé sur le consensus d'un rapport idéal de 4. Nous sommes donc entre 4 et 5 fois trop riches en oméga-6, j'ai perdu ma flèche, voilà, aujourd'hui, puisque le lait de femme est une photocopie de la nature des aliments et des graisses que nous consommons. Strictement. Et on a regardé le lait de vache, eh bien, le lait de vache a eu la même évolution. Et qu'ont fait les fabricants de lait en poudre pour enfants, les laits maternisés, ils se disent, oh, ben, puisque le lait de femme est de plus en plus riche en oméga-6, on va rajouter des oméga-6 dans le lait. C'est-à-dire qu'ils ont suivi le mouvement. Et au lieu de le corriger, ils sont allés dans le sens d'une augmentation des oméga-6. Alors, juste un petit rappel, qu'est-ce que c'est ? Bon, quand on mange, rassurez-vous, hein, quand on mange des glucides, dans notre organisme, dans le noyau, la mitochondrie, on va fabriquer d'une part de l'acide palmitique, celui qu'on trouve dans l'huile de palme. Quand il y a un zéro derrière, c'est saturé. Et puis de l'acide palmitique, on va faire de l'acide stéarique. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le beurre essentiellement. Et puis du stéarique, ça va fabriquer de l'acide oléique. C'est celui qu'on trouve dans l'huile d'olive. Bon. Et puis, ça, c'est tout le monde qui sait faire ça. Nous, on en fabrique. Les bactéries, les animaux, les végétaux, tout le monde en fabrique. Et puis, seuls les végétaux ont les enzymes, là, celles qu'on appelle delta 12 et delta 15, qui permettent de faire deux acides gras très particuliers qu'on appelle les polyinsaturés. Et ces polyinsaturés, ce sont les oméga-6 d'une part et les oméga-3 d'autre part. Alors ces oméga-6 et ces oméga-3 vont subir des transformations dès qu'on les mange. On va rajouter des carbones derrière et on va rajouter des doubles liaisons. Alors juste pour vous dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est une graisse, c'est un acide gras. Bon. Et il y a des carbones, une chaîne de carbone, un chapelet de carbone. Et cette chaîne... En chimie, on compte ici au niveau carboxyle, c'est le premier atome de carbone. Et puis ça, c'est le énième. Et comme c'est... Là, il y en a 18. Et puis, s'il n'y a pas de double liaison, c'est-à-dire qu'il y a deux hydrogènes par carbone, eh bien, c'est un saturé. Quand il y a une double liaison, elle se met automatiquement en 9. Et c'est un oméga 9. Et puis quand il y en a deux doubles liaisons, l'autre se met en 6, c'est un oméga 6. Alors, on va calculer, ici on peut rallonger. Par contre, ça signe la famille, ça ne bouge pas. Et donc à partir du carbone terminal, on va compter le nombre de carbones jusqu'à la première double liaison en commençant par la fin. Et c'est ça qui caractérise la famille. En grec, la première lettre c'est l'alpha, la dernière lettre c'est l'oméga. Et donc, on va appeler ça oméga 6. Et puis ça, on va l'appeler oméga 3. C'est ça le terme. Voilà. Alors, d'où viennent ces oméga ? Ben, c'est la photosynthèse sur les végétaux. Et vous avez deux types de filières alimentaires et de production. Vous avez, attendez voir, vous avez la filière marine, la photosynthèse sur le plancton va vous permettre d'avoir beaucoup d'oméga-3. Le phytoplancton est une algue qui est mangée par du zooplancton, qui est un crustacé, microcrustacé, qui est mangé par des petits poissons, qui eux-mêmes sont mangés par les moyens, qui eux-mêmes sont mangés par les gros, et nous, on mange les gros. Et c'est comme ça qu'on s'approprie des oméga-3, et c'est pour ça qu'on vous dit, le poisson, c'est bon pour la santé. Et puis, vous avez la filière terrestre. En fonction de ce qu'on va donner à manger à la vache, au cochon, au mouton, à la chèvre, à tout ce que vous voulez, au poulet, à la poule pondeuse, il va fabriquer dans sa chair ou pour la vache dans le lait soit des oméga-6 désaturés des trans, c'est-à-dire la catastrophe, et ça, ça vient de palme, soja, maïs et tournesol, soit des oméga-3 et des CLA qui sont un acide gras assimilé, et ça, c'est quand on donne à manger des végétaux très riches en oméga-3, dont le lin qui est le végétal le plus riche en oméga-3. Donc, en partant de cette idée, nous avons décidé avec un fabricant d'aliments pour bétail d'unir nos réflexions pour essayer de nourrir des animaux avec des graines de lin et de voir si, effectivement, on changeait la nature de la viande, la nature du lait, et si la consommation de cette viande et de ce lait avait des effets sur le plan santé. Alors, à quoi servent les oméga-3? Juste un rappel, c'est que plus il y a d'oméga-3, plus les parois de nos cellules sont fluides. Et c'est très important, puisque quand vous avez du stress, des anticorps, des bactéries, des toxines, tout ce que vous voulez, il faut que l'organisme se défende. Vous avez des grosses protéines qui traversent les parois cellulaires et qui jouent le rôle d'ascenseur, qui donnent l'information au niveau de l'intérieur de la cellule. Et quand l'information est rentrée dans l'intérieur de la cellule, il y a une réponse, une interprétation, une réponse qui permet à la cellule de lutter ou de s'adapter à son environnement. Si la paroi est dure comme du béton, l'ascenseur ne marche pas. Ça, c'est avec les oméga-6 et avec les saturés. Si on a des oméga-3, la membrane est fluide, l'ascenseur marche très bien et nous répondons beaucoup mieux aux problèmes d'agression. Alors, un autre exemple, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Beaucoup de personnes âgées perdent la vue, pas la presbytie là, qui fait qu'on a besoin de lunettes, mais vraiment une perte de la vue. Vous savez que les bâtonnets, quand il y a un photon qui tombe sur des protéines qu'on appelle la rhodopsine, ces protéines s'étirent. Et dès que le photon est parti, en une fraction de centième de millième de seconde, ça revient, donc les bâtonnets font un jeu d'accordéon. Et ce jeu d'accordéon est à l'origine d'un courant électrique, et c'est ce courant électrique que le cerveau perçoit comme lumière. Si la rétine est dure comme du béton, les bâtonnets ne peuvent pas s'étirer, et vous avez perdu la vue, bien que tout fonctionne théoriquement, mais vous perdez la vue. Si au contraire la rétine est complètement fluide et molle, à ce moment-là, les bâtonnets peuvent s'écarter et jouer de l'accordéon. Et à ce moment-là, vous y voyez clairement. Actuellement, la meilleure prévention de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ce sont les oméga-3. Et puis, c'est aussi, même chose, mais ça, je ne vais pas insister, sur la transmission nerveuse au niveau du cerveau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les oméga-6 et les oméga-3, en s'allongeant, arrivent à 20 atomes de carbone, et ce sont deux acides gras très particuliers. Ici, l'acide arachidonique, et là, l'EPA, c'est imprononçable, hein, l'eicosapentaénoïque. Donc, ça veut dire en 20 atomes de carbone, et ces 20 atomes de carbone, de chaque côté, sont sous la dépendance d'une enzyme qu'on appelle la cyclogénase, ou qu'on appelle la COX, tout simplement. Et grâce à cette enzyme, on fabrique des hormones qu'on appelle les prostaglandines qui sont absolument indispensables au fonctionnement de l'organisme. Or, il n'existe qu'une seule COX qui est commune aux deux familles. Si vous avez beaucoup d'oméga-6, la COX va se déplacer vers les oméga-6 et former des prostaglandines de type 2 et des thromboxanes de type 2. C'est quoi? C'est pro-inflammatoire, pro-agrégant plaquettaire, c'est-à-dire qu'on fait des caillots, pro-cancérigène, pro-diabétogène, pro-obésogène. Si à l'inverse, vous avez beaucoup d'oméga-3, la COX va se déplacer vers va fabriquer des prostaglandines de type 3 qui sont anti-inflammatoires, anti-agrégant plaquettaire, anti-diabétogène, anti-cancérigène. Et vous voyez donc bien que l'apport alimentaire ici va être déterminant pour savoir quel est votre statut futur. Juste à titre indicatif, l'aspirine que certains d'entre vous doivent prendre parce qu'ils ont fait par exemple un infarctus du myocarde, ben c'est simplement un anti-COX qui agit ici et qui empêche aux prostaglandines de type 2 d'être fabriquées. Donc l'aspirine favorise les oméga 3. Hein, c'est juste une parenthèse. Alors, on arrive à l'aspect génétique. Vous en a parlé tout à l'heure, et c'est quelque chose de très intéressant. On sait que l'alimentation peut modifier l'expression génétique. La preuve, c'est chez les abeilles. Si une abeille mange de la gelée royale, ça sera une reine. Si elle ne mange que du miel et du sucre, ça sera une ouvrière qui n'est plus fertile et qui meurt en 45 jours alors que l'abeille meurt en 4 ans. Donc ça veut bien dire que l'alimentation, et seulement l'alimentation, est capable de modifier l'expression. Je ne dis pas de modifier la génétique, parce qu'elles ont exactement le même bagage génétique, mais l'expression de la génétique. Alors, comment ça se passe? Voilà une cellule. Voilà en vert le noyau. En jaune, c'est les chromosomes, et ici, vous avez un gène, et à côté du gène, il y a une zone sensible aux événements extérieurs. Alors, quand vous avez un événement extérieur, ça va stimuler un récepteur, peu importe le nom. Ce récepteur va stimuler cette zone à côté du gène et cette zone va stimuler une sorte de photocopie qui va transmettre la photocopie du gène à une usine qui est dans la cellule, qu'on appelle le réticulum endoplasmique. Et cette usine va fabriquer une protéine. En général, ce sont des enzymes. Et ces enzymes vont être à l'origine d'une réaction. Ça, c'est ce qu'on appelle la transcription et c'est l'expression génétique. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec la nourriture? Si vous avez un rapport les oméga 3 et les oméga 6, avec un rapport oméga 6, oméga 3 qui est variable, c'est exactement la même chose, ça stimule. Il va y avoir aussi une transcription sur certains gènes, l'expression d'enzymes, et ces enzymes vont faire quoi? Eh bien, ils vont permettre de recruter ou non des cellules graisseuses. Eh bien, quand vous avez un rapport qui est élevé, ce système-là marche très bien. Et quand vous avez un rapport qui est bas, ce système est bloqué. Autrement dit, les oméga-3 élevés font qu'on n'est pas obèse, et puis les oméga 6 élevés font qu'on est obèse. Alors, est-ce qu'on en a la preuve? Attendez, je vais... Voilà. Ça, c'est un chromosome. Et ce chromosome, c'est, si vous voulez, la double hélice d'ADN. Alors, si à cette échelle-là, on étirait le tout, on irait grosso modo jusqu'à Paris. Donc, il faut qu'on arrive à emmagasiner tout ça au sein d'un noyau. Donc ça s'entortille dans tous les sens. Et vous pouvez imaginer que les gènes qui sont quelque part là-dessus, quand c'est complètement emploté, ils sont cachés. Donc quand les gènes sont cachés, ils ne peuvent pas s'exprimer. Et les aliments vont avoir comme fonction de fixer sur les protéines autour desquelles ces gènes s'enroulent, soit des groupements chimiques qu'on appelle des acétyles, soit des groupements chimiques qu'on appelle des méthyles. Eh bien, quand les groupements acétyles se fixent dessus, ça écarte les histones, ça écarte et les gènes apparaissent à l'air libre. Et là, ils peuvent s'exprimer. Au contraire, quand il y a des méthyles qui se mettent, ça rabougrit le tout, les gènes sont enfouis au fond et du coup, le gène ne peut pas s'exprimer. Eh bien, les oméga-3 agissent comme ça, et les oméga-6. Quand on a beaucoup d'oméga-6, ça écarte certains endroits, et le gène de l'obésité, c'est-à-dire le gène capable de fabriquer des cellules graisseuses, peut s'exprimer. Et à l'inverse, quand on a beaucoup d'oméga-3, il y a méthylation, et la méthylation fait que ça se rabougrit, et ces gènes ne peuvent pas s'exprimer. Alors, est-ce qu'il y a des preuves là-dessus? Alors, il y a des preuves. Je vais aller vite là-dessus. Grosso modo, ce système-là qu'on appelle l'épigénétique est responsable de beaucoup de pathologies que vous avez ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est là-dessus. Vous savez que on a des cellules souches. Tout le monde a entendu parler des cellules souches. ces cellules souches sont indifférenciées. Et en fonction de l'environnement, par ce système d'épigénétique, on va pouvoir recruter des cellules souches pour donner n'importe quel tissu, et notamment pour donner éventuellement des adipocytes, c'est-à-dire des cellules graisseuses. Alors, le recrutement des cellules souches, il est lié aux oméga-6. Si on a beaucoup d'oméga-6, on va recruter des cellules souches. Voilà. Et ces cellules souches vont normalement vont être là, elles vont grossir, se multiplier, et à partir d'un moment, elles vont devenir irréversibles. Et là, elles vont pouvoir se remplir de graisse, et ça donne un certain nombre de cellules graisseuses. Quand on a beaucoup d'oméga-6, eh bien, une cellule souche va pouvoir se multiplier beaucoup plus, de façon beaucoup plus importante. Et à ce moment-là, c'est irréversible à partir de ce stade. Et quoi qu'on fasse, eh bien, on aura beaucoup trop de cellules graisseuses. Or, le système étiré ou rabougrir notre chromosome, c'est un système transmissible de génération en génération. Si une maman ou une future maman et un futur père bouffent mal, ils vont avoir dans leur génome soit étiré, soit rabougri, et que donc, au moment de la fécondation, ils transmettent à l'enfant cette caractéristique. Autrement dit, et ça a très bien été montré, le problème de l'obésité, je vous ai montré des diapositives très rapidement et puis mon voisin vous en a parlé, le problème, ce n'est pas toutes ces hormones, etc. Tout ça, c'est un stade effectivement qui joue sur la prolifération des cellules graisseuses. Mais le vrai problème, c'est avant. Qu'est-ce que les futurs parents ont fait avec leurs enfants ? On fait pour avoir des enfants dans les conditions où lesquelles ils les ont conçus. Et que je vais donc vous apporter quelques preuves. Alors, preuve d'abord que les oméga-6, ça fait grossir. Ceux qui font de la montagne, vous avez déjà vu des marmottes. Alors là, j'ai photographié quelques marmottes, et puis j'en ai pris quelques-unes autres sur Internet. Quand une marmotte sort juste là, en avril, il y a encore de la neige, et puis il y a une petite herbe toute tendre qui apparaît. Et à ce moment-là, il y a du soleil. Avril, mai, juin, ça cogne. C'est très riche en oméga-3. Et à ce moment-là, la marmotte, elle monte à 3000 mètres, 4000 mètres, elle crie, vous l'entendez, mais vous ne la voyez pas. Elle se reproduit, elle fait plein de petites marmottes, elle a une énergie extraordinaire. Et puis, les saisons passent, on arrive fin juillet, août, la quantité de soleil diminue, les jours se rétrécissent, et à ce moment-là, les graminées sont montées en graines, ce sont des graines de structure riches en oméga-6, il n'y a plus d'oméga-3, et là, elles grossissent. Elles grossissent, là j'ai deux belles photos de marmottes qui sont terribles, et ces marmottes, une fois qu'elles sont complètement... Alors, non seulement elles grossissent, mais en plus, elles sont apathiques. Là, elles descendent et on peut les approcher. Celles-là, elles étaient à 3 mètres, des marmottes sauvages. Et que donc, la semaine dernière, j'ai présenté ces diapos à des enseignants et à des responsables de restauration scolaire. Ils disent, mais c'est nos élèves. C'est-à-dire que on est les gamins obèses, apathiques, qui sont là, voilà, oméga-6. Et alors après, la marmotte, elle, c'est son cycle, et elle rentre dans son terrier pour aller ensuite passer l'hiver. Et j'ai mon collègue, là, le fabricant d'aliments pour bétail, Pierre Veil, qui est allé aux États-Unis visiter un laboratoire qui travaille sur les cycles et où ils élèvent des marmottes à qui ils donnent à manger que des oméga-3. Il n'y a plus d'hibernation. Ça se reproduit toute l'année, ça rigole toute l'année. Alors, mon collègue Ayo, celui qui a gardé les échantillons de lait, a fait une expérience très intéressante. Il a pris des souris lambda, pas des souris de laboratoire trop sophistiquées, vraiment des lambda, accouplées, première génération. À la naissance, le souriceau, il a une taille strictement normale pour un souriceau normal. Trois semaines plus tard, au moment de la maturité sexuelle, il a grossi et il est plus gros que les parents. Pourquoi ? Ben, pourtant, il a donné un régime isocalorique, strictement ce qu'il fallait, pas un gramme de plus, pas une calorie de plus. Sauf que toutes les graisses étaient des oméga 6 et non pas des oméga 3. Eh bien, plus gros, accouplé, deuxième génération, eh bien, le bébé, il était à la taille des parents, mais trois semaines plus tard, il était encore plus gros que les parents. Alors qu'il mangeait strictement, il faisait du régime, mais il était plus gros. Et même chose à la troisième génération. Autrement dit, les oméga 6 ont recruté des cellules souches, et ces cellules souches étaient silencieuses au moment de la naissance, et elles se sont révélées au moment de la maturité sexuelle. Et donc, on a obtenu des vrais obèses, alors que sur trois générations, elles mangeaient strictement isocaloriques. Alors, je vous laisse transposer par rapport à notre type d'alimentation, puisqu'on est passé d'un rapport de 5 à un rapport de 20. Alors, voilà le problème. Hein. Donc, le consensus AFSSA de 2010, là, entre experts, on a déterminé que c'était 4. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et ça, c'est quelques études ici. Bon, vous voyez, 18-75. Aux États-Unis, on est arrivé jusqu'à 35. Ça vous explique ce que je vous ai montré tout à l'heure. Bon. Alors, juste quelques études que nous avons menées au CERN. On a donné strictement la même chose à manger à des gens filière lin et puis supermarché du coin. Résultat des courses, dans le sang et dans les membranes cellulaires, eh bien, grosso modo, on a doublé les oméga 3 et on a diminué les oméga 6. Donc, en mangeant des oméga 3 ou des oméga 6, ça modifie notre statut. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a donné à manger du pain dans lequel il y avait 5% de graines de lin, mais en farine. Mis dessus, ça ne sert à rien, hein, je vous le dis tout de suite. Mais il faut les broyer, mettre dans la farine, c'est-à-dire qu'on a donné à manger 4 tartines de pain par jour. Les gens mangeaient par ailleurs normalement tout ce qu'ils avaient l'habitude de manger, sans distinction. La seule différence, la moitié des sujets mangeaient 4 tranches de pain au lin et l'autre moitié mangeait 4 tranches de pain supermarché du coin. Résultat des courses, cholestérol total, moins 8%. Mauvais cholestérol, moins 8%, le LDL. Et triglycérides, moins 35%. On est aussi bon que certaines statines. 4 tranches de pain. Alors, on a fait ça chez les diabétiques. On a donné aux diabétiques soit des produits laitiers, etc., standards. On les a mis au régime. Alors, effectivement, ça a un peu marché, c'est-à-dire qu'on avait besoin d'un peu moins d'insuline pour les équilibrer. Et puis, on a donné les produits bleu-blanc-cœur. Et vous voyez qu'on a baissé de 30% la quantité d'insuline pour équilibrer leur diabète. Regardez un peu cette courbe. Ça, c'est un des diabétiques de mon service où rien qu'avec le régime, hein, on n'a pas changé le traitement médicamenteux, rien qu'avec le régime, il a quasiment normalisé ses glycémies. Mais à la fin du protocole, pof, il est remonté. Et puis, ça, c'est pour l'obésité, alors. On voulait tester justement l'efficacité de ce rapport oméga 6 sur oméga 3. Alors, on a pris 260 personnes, donc c'était un gros échantillon. La moitié a eu le régime selon les préconisations médicales actuelles. Et l'autre moitié a eu un régime identique, sauf que les produits étaient remplacés par des oméga, par bleu-blanc-cœur, donc des aliments d'animaux nourris au lin. Alors, dans un premier temps, 3 mois, tout le monde a perdu le même poids. J'étais vachement déçu parce que je pensais que ça marcherait quand même mieux. Et puis, on leur a dit, bon, maintenant, vous reprenez vos habitudes alimentaires, on ne veut plus s'occuper de vous. Vous revenez nous voir régulièrement pour vous peser. Mais, et là, qu'est-ce qu'on a vu ? Les gens, supermarché du coin, ils ont tous repris leur poids. Et les gens qui avaient eu des oméga 3, ils n'ont pas repris leur poids. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on avait vidé les cellules graisseuses de leur contenu, mais que ceux qui avaient continué supermarché du coin avec des oméga 6, ils ont continué à fabriquer des cellules graisseuses et que quand ils ont repris leur alimentation normale, eh ben ils les ont regonflées. Tandis que ceux-là, ils ont vidé leurs cellules graisseuses, mais ils n'en ont pas fabriqué puisqu'ils avaient des oméga 3, ils n'ont pas recruté de cellules souches et du coup, ils sont restés à leur poids stable. Donc pour les diététiciennes, je ne sais pas s'il y en a ici, vous êtes toutes conscientes qu'en faisant maigrir des gens, vous avez des systèmes de yo-yo. Hein, vous arrivez à les faire maigrir, et puis manque de peau, vous laissez un petit peu la bride sur le cou, et puis ça y est, ils ont repris du poids. Ben là, vous avez certainement l'explication. Alors, autre chose intéressante, c'est qu'on a regardé les critères de maladie cardiovasculaire, et entre les deux groupes, donc le groupe préconisation des sociétés de cardiologie et le groupe oméga 3, il n'y avait aucune différence significative. Or, on avait beaucoup plus de produits animaux, beaucoup plus de viande. Ce qui veut dire que finalement, malgré une origine carnée de l'alimentation, beaucoup plus carnée, eh bien, le ratio oméga 6 oméga 3 bas avait un effet protecteur. Donc, ce n'est pas la viande en soi qui est mauvaise, c'est la nature des graisses dans la viande. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette dernière étude, on a voulu la publier. On l'a présentée à l'American Journal of Cardiology. Et le rédacteur en chef nous a dit... désolé, mais vous n'êtes pas dans la ligne éditoriale de la revue, donc ça ne sera pas publié. Par chance, on a pu le publier dans une revue encore plus prestigieuse qui s'appelle Lipids. Mais j'ai quand même recherché sur Internet le profil de ce rédacteur en chef. Et ce monsieur Williams Roberts disait dans un éditorial de la revue que j'ai pu avoir... Manger de la viande, c'est mettre sa santé et donc sa vie en danger. Et quand les animaux nous tuons des animaux, finalement, c'est les animaux qui vont nous tuer. C'est un végétarien. Bon. Sans doute, je suppose. Mais dans la même revue, il y avait ça. C'est-à-dire que c'est une revue anglaise de gens assez prestigieux, d'une équipe prestigieuse. Donc dans le American Journal, c'était en 2010, qui disait « Puisque les Américains et les Anglais sont incapables de se passer de viande, eh bien, fabriquons des hamburgers avec une couche de viande, une couche de statine, une couche de viande, une couche de statine. » Et j'ai regardé la revue en question. Il y avait au moins 6 encarts publicitaires de leur laboratoire pharmaceutique pour vanter les statines. Autrement dit, si nous avions publié là-dedans, en disant les statines, ça ne sert pas forcément à grand-chose, puisque simplement une modification de l'alimentation suffit, eh bien... la revue risquait de se voir supprimer un certain nombre de subsides par les laboratoires pharmaceutiques. Alors, que faire ? Eh bien, simplement, je vais aller très vite maintenant. Pour les huiles de table, ça, éventuellement, je vous laisserai le montage et puis vous pourrez distribuer aux gens qui sont là. Il y a des huiles pauvres en oméga 3. C'est essentiellement tournesol, soja, maïs. L'huile d'olive est neutre, hein, donc je la mets de côté. Mais tout celle-là, ce n'est pas utile d'en avoir. Et méfiez-vous des margarines au tournesol, c'est des oméga 6. Par contre, il y a des huiles riches en oméga 3. Et celles qui sont intéressantes, c'est essentiellement le colza et noix. L'huile de canola, c'est le nom canadien de colza. Parce que vous savez qu'il y a quelques années, il y a 20 ans, le colza était riche en acide érucique qui n'était pas très bon. Et donc, maintenant, on a des espèces sans l'acide érucique et les Canadiens ont estimé nécessaire de changer le nom de colza pour canola, mais c'est exactement la même chose. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'oméga-3 et surtout, dans le colza, très peu d'oméga-6. Donc, actuellement, dans votre cuisine, prenez de l'huile de colza et si vous voulez la parfumer un peu, vous mettez un peu de l'huile de noix dedans. Ici, dans la région Poitou-Charentes, on trouve des mélanges colza-noix qui sont excellents. Moi, j'ai de la famille ici, et quand je viens les voir, on va au supermarché, là, au Leclerc, pour en acheter. En Bretagne, on n'en trouve pas, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et puis, vous avez certaines huiles dites diététiques. Alors, laissez tomber. Vous dépenserez dans des magasins spécialiser des fortunes pour des huiles qui ne servent à rien. Simplement, pour les huiles tropicales, si vous voulez faire une friture, je vous conseille simplement l'huile d'arachide, parce que vous voyez que, certes, il n'y a pas d'oméga 3, mais il y a très peu d'oméga 6 et il y a beaucoup d'oméga 9, c'est-à-dire comme de l'huile d'olive. Donc c'est une huile qui est plutôt neutre, et si vous voulez monter en température dans une poêle, par exemple, mieux vaut à ce moment-là prendre de l'huile d'arachide. Alors, il y a l'autre filière, c'est la filière que nous avons développée, c'est-à-dire qu'on prend des graines de lin, on les broie, on les extrude, on les cuit, enfin il y a tout un processus, et on le donne à manger aux animaux à raison de 5% de leur ration alimentaire, pas plus, ça suffit, et moyennant quoi on arrive, allez voir, donc cette technique-là, c'est la technique bleu-blanc-cœur qu'on a déposée, c'est une loi d'association 1901 qui fait toute la filière alimentaire, depuis les producteurs de lin jusqu'aux consommateurs, avec, si vous voulez, 350 adhérents, mais quand une coopérative est adhérente par derrière, il y a beaucoup d'agriculteurs, donc il y a à peu près 5000 participants. 7 collèges dans l'association de production végétale, etc., y compris un collège scientifique que je préside, et puis un collège international. Là, je suis allé en Italie l'autre jour, je suis allé à Malte pour lancer aussi la filière bleu-blanc-cœur à Malte, en Angleterre, etc. Et donc, on a maintenant un certain nombre d'endroits où cette filière est reconnue. Et le principe, c'est de donner aux animaux des graines de lin, avec des produits ainsi transformés que vous retrouvez dans le commerce pour une meilleure alimentation. Et puis, vous pouvez aussi consommer directement ces graines de lin. Actuellement, ces graines de lin, c'est vendu sous forme de linette et vous pouvez aller sur le site pour vous en procurer. Voilà quelques échantillons de produits que vous retrouvez en supermarché. Et sur le site, vous avez des onglets et vous pouvez savoir quels sont les magasins et quels sont les produits le plus proche de chez vous pour trouver ces produits à base de lin. Alors juste, vous savez qu'en termes environnementaux, et c'est important, actuellement l'huile de palme c'est une véritable catastrophe. Vous savez que les monocultures soja, maïs, c'est également souvent une catastrophe et que donc la polyculture telle que nous la concevons est quand même un très bon point sur le plan environnemental et je voudrais juste insister sur les gaz à effet de serre. On a beaucoup critiqué l'élevage comme source de méthane, et il faut savoir qu'un litre de méthane égale 21 litres de CO2, hein, c'est le rapport de 1 à 21, et nous avons donc mis des masques à gaz aux vaches, puisque le méthane, la vache rote, elle ne pète pas, puisque la panse est en haut du tube digestif, donc ça c'était une solution. L'autre solution, c'est de mettre un ballon gonflable, on met un trocard dans la panse de la vache, et on a pu calculer comme ça qu'une vache émet à peu près 1000 litres de méthane par jour. Alors 1000 litres de méthane par jour, ça fait 21 000 litres de CO2. 21 000 litres de CO2. Eh bien, quand on donne des graines de lin extrudées, un GLE, c'est ça. Donc au départ, on a l'émission de méthane ici, c'est ces histogrammes. Et plus on augmente les graines de lin extrudées dans l'alimentation de la vache, plus on diminue jusqu'à une diminution de 37% des émissions de méthane. Alors qu'en rouge ici, c'est la production laitière. Ça veut dire qu'on ne modifie pas la rentabilité de l'élevage, mais on diminue les problèmes environnementaux. Et donc, dans notre triptyque, c'est santé de la terre par la biodiversité liée aux éléments que l'on donne à manger. C'est la santé animale, puisque avec les oméga-3, les animaux se portent bien mieux. Et bien entendu, c'est la santé humaine, puisque par la consommation de ces animaux, on a une amélioration de notre santé. Alors, cette démarche a été reconnue par un certain nombre d'organismes. On a signé la charte nutritionnelle avec le PNNS en 2008. Là, on revient à ce que mon voisin vient de vous dire. Il y a eu la marque allégante. Vous savez que pour dire un produit est bon pour la santé, c'est ce qu'on appelle une allégation. Jusqu'à présent, c'était la France au niveau de l'EFSA qui donnait les allégations de l'EFSA. Et maintenant, c'est l'EFSA au niveau européen. Bleu Blanc-Cœur est la seule marque allégante pour les oméga-3. Toutes les autres n'ont pas eu l'autorisation. On est inscrit dans le programme national de l'alimentation qui dépend du ministère de l'Agriculture pour dire que c'est une agriculture raisonnée et bonne pour la santé. Et puis, ça a été reconnu, notre technique, comme une méthode officielle. Maintenant, c'est la seule méthode reconnue officiellement pour l'émission, la réduction des gaz à effet de serre, ce qui nous a valu cette année, en septembre, la reconnaissance de l'ONU dans la démarche de réduction des gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, les agriculteurs qui sont dans cette filière peuvent vendre leur économie de CO2 sur le marché du CO2 acheté par les firmes polluantes. Voilà, je m'arrête là. Nous sommes ce que nous mangeons. Et au fond, on a aussi le choix du type de société et du type de vie que nous voulons avoir. Est-ce que c'est celui de gauche? Est-ce que c'est celui de droite? Je vous en laisse juger.
Merci de cette large mise en perspective et merci de ces deux interventions tout à fait complémentaires. Il nous reste à peu près 20 minutes de débat.
J'ai pas été un peu long.
Oui, mais c'était très intéressant. Ah ben vas-y.
Vous avez parlé tout à l'heure de l'histoire de la viande. C'était pas mal de manger de la viande, d'après ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'il est préférable de manger, de la viande de bœuf ou de la viande de cheval?
La viande de cheval est très bonne. Hein. Et le problème du scandale actuel, c'est pas la nature de la viande.
C'est l'origine.
C'est le circuit. C'est le circuit et la traçabilité. Bon. Ceci dit, la viande de cheval, c'est excellent. C'est un problème... je dirais mental, de manger du cheval aujourd'hui, quand vous voyez tous les clubs hippiques, c'est devenu très féminin, le cheval, et donc très sensible. Hein, on parle avec son cœur. Et peut-être que les hommes sont un peu plus froids là-dessus, mais manger son cheval, c'est inconcevable. C'est comme les Anglais. Bon, alors que c'est une excellente viande. Hein.
Merci beaucoup pour votre présentation passionnant et passionnée. La question que je me posais, c'est en voyant à la fois les rats que vous avez montrés, il y a ce qu'on appelle la différence interindividuelle. C'est-à-dire que dans une condition donnée, si ce sont les rats de la même lignée, eh bien, à ce moment-là, on peut même voir ces rats qui sont génétiquement définis par avance, tous ne répondent pas de la même manière à une situation donnée.
Bien sûr.
Alors, si vous prenez des rats qui ne sont pas de la même lignée, donc ça veut dire, là encore, la différence va être encore beaucoup plus que ce qui est prédéterminé. À partir de là, tous les rats ne doivent pas grossir de génération en génération. Et donc, ma question ne porte pas sur les rats, c'est juste... J'ai beaucoup apprécié votre présentation, puisque là, vous mettez en exergue à la fois cette question de l'aspect génétique et l'aspect environnemental. Est-ce que ce qui m'intéresserait, donc, si on pourrait dire de manière translationnelle, de rat vers l'homme ou l'inverse, c'est où est-ce que vous mettez le seuil, si je peux dire ainsi, de ce qu'on appelle donc la différence interindividuelle dans l'explication entre ce qui pourrait être génétique et l'environnemental par rapport à cette question de prise de poids.
Mais oui, mais j'ai pas une réponse toute faite comme ça, hein, c'est compliqué. Simplement, réfléchissons un peu. Au moment de la fécondation, chez l'homme, chez l'animal, peu importe. La première cellule, elle a un bagage génétique. Elle se divise en deux. Les deux cellules ont le même, en 4, en 8, en 16, en 32, en 64. La morula, toutes les cellules sont identiques. Même bagage génétique. Et puis, à un moment donné, ça se modifie. Il y a la crête neurale, il y a le... etc. Et puis, in fine, certaines cellules donneront de l'os, d'autres cellules donneront du cerveau, d'autres cellules donneront du foie, d'autres cellules donneront je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'il y a une différenciation. Or, vous prenez une cellule muqueuse, une cellule du foie, même bagage génétique, strictement chez un individu. Et pourtant, ce n'est pas le même tissu. Donc, il s'est passé quelque chose. Et ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Épi, ça veut dire au-dessus de la génétique. C'est-à-dire que vous avez un bagage génétique, mais il y a quelque chose qui influence par-dessus. Et ce qui influence, c'est l'environnement. Alors, environnement de la cellule. Et on sait très bien qu'au niveau de la morula, c'est-à-dire cette, ça ressemble à une petite mûre, donc le fœtus n'est pas encore formé. Ce qui est à l'extérieur n'a pas les mêmes influences hormonales, sérologiques, etc., que ce qui est à l'intérieur. Et cette différence fait que, en termes de bagage génétique, certaines zones s'ouvrent et d'autres se ferment. Et c'est ça qui fait la différenciation tissulaire. Quand Ayo a fait son expérience sur les souris, des souris, c'est pas des rats, mais enfin pour ça, c'est pas très grave. Quand il a fait son expérience sur les souris, c'était des souris, il y avait de la consanguinité, si je puis dire, c'est-à-dire que c'était les mêmes portées, mais c'était important, puisque ça permettait d'avoir strictement le même bagage génétique. Donc on supprimait des influences extérieures d'altérité génétique. Et pourtant, et en plus, il y avait cet aspect strictement isocalorique, isoprotidique, isolipidique, etc. Il n'y avait qu'une variable qui changeait, c'était la nature des lipides. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec le même bagage, et un environnement, c'était dans des cages standards, donc il n'y avait pas d'effet lumière, d'effet stress, d'effet machin, d'effet truc, c'était exactement la même chose. Il n'y avait qu'une variable et on a obtenu des obèses. Alors, on le sait bien, vous disiez que les études faites chez les jumeaux qui étaient séparés, ils avaient des profils assez proches parce qu'ils ont le même bagage génétique, mais pas tout à fait, parce que les influences alimentaires des enfants adoptés par deux familles différentes, par exemple, les habitudes alimentaires étant différentes, les enfants se présenteront différemment. Et puis, même dans une même famille, dans une même fratrie, vous avez des gens qui sont maigres et des gens qui sont gros. Mais ils ne sont pas venus au monde en même temps. Dans ma famille, je connais des gens qui sont nés à une certaine époque et qui sont plutôt dans les obèses, et puis d'autres qui sont nés à une autre époque et qui sont plutôt dans les maigres, dans la même famille, dans la même fratrie. C'est-à-dire que l'aspect culturel, l'aspect évolution des mentalités, des conditions de vie, de l'après-guerre où il n'y avait pas beaucoup à bouffer par rapport à une période plus faste, etc., ont fait que, progressivement, il y a eu des différenciations, alors que génétiquement, dans une même fratrie, certes, ce n'est pas tout à fait la même chose, puisqu'il y a quand même les lois de Mendel, si je puis dire, qui jouent. Mais quand même, on a quand même un bagage génétique assez proche. Eh bien, malgré ça, on va avoir des obèses ou des maigres. Donc, l'environnement, c'est vachement important. Enfin, je ne peux pas vous en dire plus, parce que c'est compliqué, hein, mais les caractères individuels ne sont pas liés à la transcription génétique. C'est lié à la manière de s'exprimer pour ces gènes. Est-ce qu'ils sont capables de s'exprimer ou pas ?
Et vous irez jusqu'à la question du traitement. On entend parler de traitement épigénétique. Est-ce que vous irez jusque-là, à ce moment-là, dans le cas de patients obèses que vous
Alors,
avez montré ?
Ce n'est pas de ma compétence. Nous, nous ne faisons pas de traitement génétique. Enfin, c'est oui, très compliqué. Bon. Ça pose d'autres problèmes sur le plan de l'éthique, mais le traitement génétique, je dirais, par le choix alimentaire, c'est déjà un traitement. C'est-à-dire que si je vous dis aujourd'hui, bon, les plus jeunes parmi nous ici, qui vont avoir des enfants à venir, moi je suis trop vieux maintenant, mais bon, les plus jeunes, je leur dis, mais commencez dès aujourd'hui à bouffer correctement. Car en bouffant correctement, vous allez modifier vos caractères, enfin l'expression de vos gènes, et le jour où vous aurez à concevoir un enfant, vous allez lui transmettre ses caractéristiques. Alors, on a mis 90 ans pour devenir obèse. Enfin, c'est ma petite figure, là. Et j'ai mis 90 ans pour revenir en arrière, point d'interrogation. Je pense que oui, puisque sur les souris de Hayo, on a montré que c'est réversible. Simplement, on a mis 3 à 4 générations pour créer, je ne sais plus combien, 17% d'enfants obèses. Est-ce qu'on va mettre 3 à 4 générations pour ramener à 3% d'obèses? Et ça veut dire qu'il faut s'y prendre dès maintenant.
Merci. J'avais juste une question par rapport aux données que vous avez présentées sur le plan épidémiologique. Est-ce qu'on a des données dans la région Poitou-Charentes sur la question de l'obésité en rapport avec les pathologies, psychiatriques comme la dépression, l'anxiété?
Non, les seuls éléments qu'on pourrait faire, c'est à partir des données déclaratives, par exemple du type baromètre santé, essayer de faire des régressions multivariées ou des choses comme ça pour essayer de créer des profils de population, essayer de voir s'il y a des associations entre le fait d'avoir des troubles comme ça et le fait d'avoir un IMC déclaré associé. Il faudrait vraiment beaucoup de puissance statistique. Là, on a un peu plus de 1000 individus. Ça sera, à mon avis, ça sera un peu difficile. Donc, dans la région, à ma connaissance, on n'a pas ces données. On a relativement peu de données d'informations sur le surpoids et l'obésité en général, enfin, des données robustes. Les seules données qui seraient un peu plus en routine et qu'on pourrait utiliser, ce seraient les données sur les données scolaires, quoi. Ou dans les centres d'examen de santé, ça peut être des portes d'entrée qui sont intéressantes aussi, mais la population est quand même assez particulière.
Moi, j'aurais deux questions. Est-ce que la consommation d'oméga 3 suffit pour réguler le cholestérol? Et est-ce qu'il y a un risque à consommer trop d'oméga 3?
Alors, première question, non. Les oméga 3 ne suffisent pas. Alors, si dans l'expérience du pain, nous avons eu un tel résultat, c'est que c'était la graine complète. Or, souvenez-vous, c'était il y a une dizaine d'années maintenant, peut-être, le temps passe, il y a eu 2 études, une américaine et une anglaise, qui ont montré que l'utilisation des œstrogènes, des œstroprogestatifs, comme traitement de la ménopause, certes soulager les bouffées de chaleur, mais entraîner un accroissement de 20% du cancer du sein. Ce jour-là, tout le monde, 80% des femmes qui étaient sous traitement substitutif pour la ménopause ont arrêté les œstroprogestatifs et se sont mis à prendre du soja. Résultat des courses, plus 20% de cancer du sein, donc strictement identique. Et en plus, comme toute la famille mangeait du soja, compte tenu des profils lipidiques et hormonaux du soja, qui sont des phytoœstrogènes, eh bien, on a donné du lait de soja et du fromage de soja, donc du tonio et du tofu, à des enfants dès la première année. Et on a créé des troubles sexuels chez les petites filles, notamment avec des retards de la puberté ou des avances de la puberté, ce qui est actuellement une hérésie. Donc, ne donnez pas de soja aux enfants avant 3 ans. Ça, c'est le premier point. Et puis, on s'est dit, regardons un peu ce qui se passe avec d'autres sources de phytoestrogènes. Et c'est là que Mme Clavel, Françoise Clavel, qui travaille à l'INSERM à Villejuif, a fait l'étude sur les femmes de la MGEN. Vous en avez tous entendu parler, hein, donc les enseignantes de la MGEN qui ont fait des enquêtes sur la ménopause. Et on s'est aperçu que les femmes qui prenaient des lignanes. Alors, les lignanes, ce sont les fibres des graines de lin. Avaient une baisse de 20% de la quantité des cancers du sein. Donc, le risque relatif était à 0,8 au lieu d'être à 1,2 avec les phytoestrogènes. Donc, c'était un énorme gain. Et ça marchait très bien. Alors, nous avons regardé un peu les lignanes en question. Et les lignanes ont un effet hypocholestérolémiant majeur. Et donc, quand on a donné simplement des lignanes, ça baissait. Mais quand on a donné lignanes plus oméga-3, c'est-à-dire la graine de lin complète, ça a encore baissé beaucoup plus. Donc, actuellement, malheureusement, faute de crédit, nous n'avons pas pu mettre en place une étude prospective pour suivre de façon au long cours ce type de patients. Mais l'association lignane-oméga-3 est certainement l'association qui marche le mieux en termes de, j'allais dire, de produits alimentaires. Alors, le problème, c'est que les graines de lin sont très dures. C'est des toutes petites graines extrêmement dures et qu'il faut les broyer si vous voulez que ça soit efficace. Et en plus, comme toute graine, ça contient des cyanures, des cyanogènes. Et donc, il faut les cuire pour détruire ces cyanogènes. Donc ça, c'est la technique de l'extrusion qu'on fait industriellement. Et vous pouvez vous procurer sur le site donc bleu-blanc-coeur.com, vous pouvez vous procurer, acheter les graines de lin déjà préparées, qu'on appelle la linette, et qui, moi, j'en prends tous les jours. Je m'en trouve finalement très bien. C'est certainement un des moyens qui est très efficace pour à la fois faire baisser son cholestérol et pour les femmes en période de ménopause, pour lutter contre les bouffées de chaleur. Alors ça, c'était votre première question. La deuxième, excusez-moi, mais je...
Est-ce qu'il y a un risque à consommer trop d'oméga-3?
Oui. Alors, je reviens à mes Esquimaux. Les Esquimaux, 10 fois moins de maladies cardiovasculaires. Par contre, une des choses que le Danemark leur a importé, c'est l'alcool. Alors, ils picolent sec, ils se bagarrent, ils se donnent un petit coup de harpon par-ci, par-là, ou bien ils font un trou dans l'estomac parce qu'ils ont trop picolé. Et à ce moment-là, ils saignent et on n'arrête plus le saignement et ils meurent d'hémorragie. C'est-à-dire que trop d'oméga-3, c'est anticoagulant. C'est comme l'aspirine. Et que donc, mais alors rassurez-vous, vous risquez rien. Parce qu'actuellement, la carence en oméga-3 est telle que tous les moyens sont bons pour augmenter le stock. Hein. Donc, vous pouvez y aller. Vous n'êtes pas esquimaux. Vous ne risquez strictement rien. Mais c'est vrai que l'excès pourrait être l'hémorragie.
Une dernière question, et puis après, on conclura.
Vous parlez du lin, mais est-ce qu'il y aurait un autre... une autre plante qui aurait les mêmes effets équivalents? Alors, dans d'autres oui, pays plus...
Oui, vous avez vu peut-être très rapidement, mais je suis allé vite. Il n'y a pas que le lin qui contient des oméga-3. C'est le lupin, la févrole, et puis le cresson, etc. Simplement, les autres plantes en contiennent beaucoup moins. Alors, ça fait partie de la stratégie en termes d'élevage, car cette polyculture a un gros avantage, c'est la santé du sol, la microbiologie du sol, la rotation des cultures, et donc finalement quelque chose de tout à fait positif en termes environnemental et en termes culturel. Par contre, pour nous, certes, on peut avoir des oméga-3 d'autres provenances. La principale source quand même alimentaire pour nous, c'est l'huile de colza, hein, c'est celle-là. Alors l'huile de lin, je me souviens, ça a été une grosse discussion entre experts de l'AFSA, faut-il mettre l'huile de lin comme huile alimentaire? Finalement, nous avons dit oui, mais à une seule condition. Comme c'est une huile qui a tellement de doubles liaisons, elle est hyper oxydable. Donc, quand vous avez une bouteille d'huile de lin, vous l'ouvrez, 48 heures plus tard, vous pouvez la foutre en l'air. Donc, pour la stabiliser, vous êtes obligé de rajouter dedans de l'huile d'olive, oméga-9, et puis de l'huile de tournesol oméga 6, parce qu'autrement, vous n'arrivez pas à la stabiliser. Et finalement, in fine, vous arrivez à la composition de l'huile de colza. Alors, ne vous enquiquinez pas. Hein. Achetez de l'huile de colza au supermarché, et puis au moins, vous avez une bonne huile source d'oméga 3.
Gérard, tu conclus ?
Oui. Oui, bah alors en conclusion, bah déjà je peux vous inviter à venir à la prochaine conférence d'ASPES qui aura lieu le 10 avril. Et donc le 10 avril, nous parlerons du prix du médicament. Et on aura la chance d'avoir à la fois le pharmacien inspecteur régional qui viendra présenter la problématique du médicament, de la, comment on fait son prix, comment on le met sur le marché. Et puis, en face de lui, il y aura le rédacteur en chef de la revue Prescrire, M. Chirac, qui, lui, viendra dire pourquoi la revue Prescrire invite à se méfier de beaucoup de médicaments et pourquoi la revue Prescrire, aujourd'hui, publie de façon régulière des mises en garde et de façon indépendante là-dessus. Et puis, donc le 10 avril, sinon, je vais remercier nos deux intervenants, vraiment chaleureusement, d'avoir pris du temps pour nous expliquer et nous montrer les problèmes d'alimentation. Donc, c'est vrai que là, on est sur des problèmes très importants. Il y a une chose quand même que j'ai lue dernièrement qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'aujourd'hui, le surpoids et l'obésité est le principal ennemi de l'armée des États-Unis d'Amérique. Et que l'armée des États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, n'arrive plus à recruter suffisamment et à faire de l'exercice, du fait du surpoids et tout, les chiffres, Julien les a montrés, c'est quand même, quand on voit qu'une épidémie de ce genre-là met en danger beaucoup plus que les quelques terroristes qui sont sur leur territoire, une armée d'un pays comme les États-Unis, il y a un vrai problème de société et je crois que c'est important. Puis si vous voulez vraiment une dernière petite blague, parce que Jean-Claude, que j'ai entendu sur France Inter, donc c'est avant Findus. Et avant, alors, on avait l'estomac dans les talons, et depuis, on a les talons dans l'estomac. Je vous remercie.
Elle est pas mal, celle-là.
Pour commander.
3W. Alors, oui, 3W. Bleu, comme la couleur bleue.
Ah,
bleu tiré.
Bleu avec un
E ? Non. Bleu tiré blanc, comme la couleur blanche. Tiré cœur.
Ok, je vous remercie.
Voilà.
Et moi j'ai eu le temps de l'apprendre.
Oui, mais c'est que j'ai pas réagi assez vite.
Bonjour, je suis diététicienne en cardio et on a entendu dire, mais on n'a pas vu d'études là-dessus, que les graisses saturées, la chaîne